Cette année, nous avons l'assurance, l'honneur de recevoir ici Marguerite Barranquitier, qui aime qu'on l'appelle Maggie, alors on va aussi utiliser ce petit nom. Elle nous vient du Burundi, un pays qu'elle dit très pauvre, mais riche d'amour. Un pays qui, au début des années 90, a connu un génocide, les massacres interethniques auxquels Maggie a assisté. Elle a eu devant elle le plus atroce des spectacles. Et sa réaction a été une réaction extraordinaire. Elle a sauvé des enfants de la guerre. Elle les a recueillis, d'abord en petit nombre, et puis ils ont été toujours plus nombreux. Elle le dit elle-même, évidemment, avec l'aide du Seigneur. Aux enfants de la guerre sont venus s'ajouter des enfants du sida, une maladie qui ravage l'Afrique tout entière, le Burundi n'étant pas épargné. Et au bout de 10 ans, tous ces enfants, toutes ces personnes recueillies, sont plus de 10 000. C'est pour vous dire l'œuvre extraordinaire qu'elle a accomplie, qui a été couronnée cette année par le prix du Haut Commissariat pour les réfugiés, le prix Nansen qui lui a été attribué. Maggie est déjà venue à Fribourg, où entre 1988 et 1990, elle était à la place de l'étudiant. Elle écoutait le professeur. Mais maintenant, Maggie, nous allons te donner la parole.
Merci.
Et nous venons d'un pays où il n'y a pas d'électricité. Alors, vous comprendrez qu'on n'est pas, on n'est pas habitué à ce genre de lumière. Mais nous allons essayer. C'est vrai, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, ce n'est pas mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire de la partager vivement avec les deux que vous voyez, que l'œuvre Saint-Justin a eu la joie de les accueillir. Ce sont les premiers enfants de la Maison Shalom. Je suis entourée donc ce soir, je me sens soutenue. C'est une histoire, au début, je crois, c'est l'horreur, de la haine. Mais au fur des années, quand je regarde le visage de Justine et d'Alexis, je me dis, il est si merveilleux, ce bon Dieu, parce qu'il permet que son amour triomphe. C'était donc octobre 93, le 24, plus précisément, le jour le plus noir de ma vie. Vous savez qu'au Burundi, il y a deux ethnies. Mais moi, d'éducation profondément chrétienne, je croyais que réellement, avant tout, nous étions enfants de Dieu. Je suis Tutsi, je ne le cache pas. Je ne suis pas non plus fière parce que je suis née Tutsi, mais avant tout, je suis enfant de Dieu et j'appartiens à cette famille des enfants de Dieu. C'est la plus belle ethnie et c'est comme ça que j'étais convaincue jusqu'au jour où la guerre a éclaté entre les deux ethnies. Le Burundi est à côté du Rwanda. Parfois, nous disons notre frère ennemi et puis après, on dit notre faux jumeau ou notre voisin tout court. Au Burundi, l'histoire des massacres a commencé bien longtemps. 65, ils se sont entretués, les Hutus et les Tutsis. Les Hutus ont pris la fuite, ils ont quitté le pays. Les Tutsis ont pris le pouvoir. 72, encore des massacres. J'avais 16 ans, et là, je ne peux pas oublier. J'ai vu qu'on prenait nos enseignants. J'ai vu des enfants qui étaient avec moi avoir des lettres, lire et puis les cacher et ne pas verser les larmes. Je demandais, on murmurait, on dit, ah, on a assassiné leurs parents. Je dis, mais on ne fait pas de deuil. Pourquoi il n'y a pas de compassion? Mais l'autre enfant souffre, mais on garde silence. Mais moi, en tant que chrétienne, ça me rongeait le cœur. Quand je rentrais pendant les vacances, je demandais à ma maman, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons chaque fois à la messe, mais quand les autres souffrent, nous ne partageons pas la souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Après 88 encore, les massacres interethniques. Et finalement, vous savez qu'il y a eu ce fameux massacre qui a été un début d'un calvaire pour un peuple. On a permis que le peuple s'exprime. Depuis longtemps, pendant 40 ans, c'était une seule ethnie et c'était l'armée qui gouvernait le pays. Après les élections, c'était un Hutu, un président Hutu qui était élu. 3 mois après, le 21 octobre, on l'assassine. Et quand on l'a assassiné, il y a eu la révolte dans les villages. Les Hutus ont commencé à massacrer les Tutsis. Les Tutsis ont fui vers les brigades. Mais moi, je travaillais en ce moment-là à l'évêché, mais je rentrais dans mon village. Un village uniquement, je dirais, des Tutsis. Mais dans ma maison, il y avait 7 enfants. J'avais accueilli 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis. Je me suis dit, je ne veux pas me séparer de ces enfants. Je me suis dirigée vers l'évêché. J'ai amené les 7. J'ai rencontré d'autres qui tremblaient. Je leur ai dit, nous allons lutter, puisque nous sommes avant tout enfants de Dieu. Nous allons montrer aux gens qui s'entretuent que nous ne voulons pas tuer nos frères. Je tiens à vous signaler qu'à ma droite, ma fille ici, elle est Hutu, et ici, mon fils, il est Tutsi. Alors, mon rêve, c'était toujours, puisque j'avais vu les injustices sociales, est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer une nouvelle génération qui dira non à la haine fratricide? Malheureusement, donc le 21 octobre, on assassine et c'est le chaos total. Le 22, je me réfugie à l'évêché. C'était une foule de personnes qui s'étaient réfugiées là-bas. Le 24, tôt le matin, c'était en dimanche, j'avais rassemblé les gens, je dis, voilà, on va quand même essayer de prier, parce que tout le monde avait peur. Il y avait beaucoup de rescapés des massacres. Quand, à 9h du matin, je vois derrière la clôture de l'évêché une foule immense, avec des pierres, des machettes, des armes à feu. Et puis, je reconnais les gens. J'ai vu qu'il y avait les gens aussi de ma famille. Je dis, courez vite. Et je cache les Hutus. Je dis, c'est très dur. Mais allez au faux plafond d'une grande salle et je vais voir ce qu'ils vont faire. Ils encerclent le bâtiment où j'avais caché ces gens. Et puis j'essaie de fermer la porte, je l'ouvre et je sors la première parce que j'avais reconnu les gens de ma famille. Et je commence à dire vraiment, oh les mains, il n'y a pas de criminels ici. Et quand bien même il y aurait des criminels, j'espère que vous ne voulez pas être des criminels. Ils ne m'ont pas laissé la parole. Ils m'ont tabassé, déshabillé, enchaîné. Et puis, ils ont mis du feu sur le bâtiment. Alors, les gens étaient obligés de sortir. Ils ont séparé les Tutsis, ils les ont amenés vers la brigade militaire et ils ont assassiné 72 personnes devant moi. J'ai essayé de leur dire, non, vous êtes comme Caïn, vous allez tuer vos frères. Non, ce n'est pas possible. Et puis, ils m'ont dit, de quelle ethnie vous êtes? Je dis, j'appartiens à la famille des enfants de Dieu. Je refuse. Bien que je suis touti, je refuse de tuer mon frère. À la fin, parce que j'avais peur, parce que je voyais qu'ils commençaient à assassiner aussi les enfants, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, j'ai de l'argent, je vais vous payer, vous allez m'enlever les cordes, et puis je vais vous donner de l'argent, mais sauvez au moins les enfants. Ils ont sauvé 25 enfants, et j'ai donné les clés où il y avait la menuiserie pour les cacher. Et à la fin, les 7, je ne les ai pas retrouvés au milieu des cadavres. J'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. Je suis allée à la chapelle. J'ai dit, Seigneur, tu m'as trompée. L'éducation chrétienne, ma mère m'a trompée, m'avait dit que tu es un Dieu amour. Montre-moi encore un signe. Pourquoi je me suis trompée? Comment je suis la sœur de tous ces gens-là? Est-ce que je dois fuir toutes ces atrocités? Au moment où j'ai crié, j'ai entendu la voix de ma fille aînée, l'aînée d'une multitude que le bon Dieu a voulu me donner, qui s'appelle Chloé. Elle était en 5e médecine. Elle me dit, on ne nous a pas tués, nous sommes là. Donc, en ce moment-là, c'était un signe. Mais j'avais la haine. Je ne voulais pas voir ces criminels. Je dis, je vais me venger. Je vais me venger. Je ne peux pas laisser faire des choses pareilles. Après, vers le soir, je n'avais pas où aller. Et voilà. Je me suis dit, où est-ce que je vais me diriger? Un des enfants m'a dit, vers le cimetière. J'ai dit non. Un autre a dit, mais il y a ce coopérant allemand, il peut nous loger. Alors, je suis allée là, avec les 25 enfants et les 7. Le lendemain, on m'amène d'autres enfants. Au début, c'était des enfants Hutus. Après, on m'amène des enfants rescapés Tutsis. Je dis, mais ça y est, comment je vais élever ces enfants? Comment je pourrais leur apprendre à pardonner à ceux qui ont tué leurs parents? Parce que je ne peux pas les élever dans la haine. Autour de nous, il y avait la haine. Je me suis dit, non, il faut commencer dès le départ. Si nous ne voulons pas que la haine triomphe, il faut, dès le début, commencer à élever ses enfants dans le pardon. Je me suis dit, mais ce que j'ai de meilleur, ce que je garde du christianisme, c'est le pardon. Je ne peux pas m'enfermer dans cette haine. J'ai commencé à faire les premiers pas vers les criminels en me disant, il faut aussi, après tout, ce sont mes frères. Après tout, même s'ils sont criminels, ce sont des frères. Mais les premiers journalistes sont venus. Ils m'ont regardé, m'ont dit, vous ne croyez pas que madame, vous êtes naïve? Je dis, mais si, je suis naïve, et heureusement. Heureusement que je suis naïve. Mais ce n'est pas possible que Dieu permette que ses enfants grandissent dans la haine. Alors, j'ai commencé timidement. J'ai commencé à aller en prison. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'un jour, je rencontre un prisonnier qu'on avait torturé. Il était mourant. J'ai demandé au directeur de la prison si je pouvais le prendre et le laver, et essayer de le soigner. Je l'ai amené à l'hôpital, mais il agonisait. C'était un Hutu, et moi j'étais Tutsi. Et puis il m'a regardé, il me connaissait. Il m'a dit, Maggie, pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que je crois en l'homme. Parce que le criminel que tu as été, demain tu peux être un sauveur. Je l'ai lavé, mais c'était trop tard. Et en fermant les yeux, il m'a dit, Maggie, j'ai vécu comme un chien, je meurs comme un homme. ton pardon me ressuscite. Je me suis dit, ça y est, on peut rêver. On peut rêver comme Mère Teresa de Calcutta disait. Plutôt que de maudire les ténèbres, il faut allumer une bougie. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ils étaient petits. Comment je pouvais leur dire qu'ils pouvaient grandir? Justine, on a assassiné ses deux parents. Elle avait 12 ans. Papa, maman, sa petite sœur immaculée. Et son frère, Pierre Clavert, avec 9 machettes dans la tête. Et son petit frère, Claude, avec une machette dans la tête, à 2 mois. Comment je pouvais lui dire de pardonner, puisqu'on était au milieu des criminels? Mais 12 ans après, je peux vous le dire, que cette famille, j'ai commencé avec 25 enfants. Finalement, nous avons ouvert d'autres centres où on mettait des Hutus et des Tutsis. Et je leur disais, vous n'êtes pas seulement des Hutus et des Tutsis, des Batois. Vous êtes toujours des personnes humaines. Et par-dessus ça, Jésus vous a sauvés. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Mais tout le monde, les uns croyaient que j'avais perdu la tête. Je me rappelle que dans la Libération, ils ont écrit « Notre folle du Burundi ». Un jour, que j'étais dans le train, je prends un journal et je feuillette, je vois la folle du Burundi. Je dis, je vais voir qui est-ce. Et je vois, c'est moi. Je dis, c'est... Vous savez pourquoi ce journaliste, après je lui ai demandé, comment vous avez écrit Notre folle du Burundi? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'aéroport chez nous, au Burundi. Ils ont pris un taxi et puis ils ont dit, est-ce que vous connaissez cette femme Maggie qui habite à l'est du pays? On dit, qui ne connaît pas cette folle? Alors, ils ont continué, ils ont logé à la capitale, à l'hôtel, et puis à la serveuse, il dit, vous connaissez la femme là qui a recueilli des enfants Hutu et Tutsi ensemble, qui a créé des centres Shalom? Elle dit, ah, la folle! Et alors, ils ont enregistré. Et puis, ils ont pris, ça fait 200 kilomètres de la capitale jusque chez nous. Et puis, le taximen, ils ont parlé avec le taximen, ils ont dit, nous allons chez cette... Ah, vous parlez de la folle. Et puis, arrivé à la position militaire, c'était toujours la folle. Et je me suis dit, c'est vrai cette folie, ça me va. Parce que le premier qui a été fou, et qui a su dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est le fou de Nazareth. Mais c'était une autre folie, une folie d'amour. Et cette folie m'a amenée à croire, parce qu'au début, je croyais que c'était une folie pour une année. Mais imaginez-vous, pendant 11 ans, cette guerre atroce a continué, et des bombardements. Mais sur la route, parfois, il n'y avait que le véhicule de la maison Shalom. Alors, je me rappelle qu'un jour, les rebelles m'arrêtent. Et puis, avec des armes, ils disent, vous sortez du véhicule. Et puis, je sors. Et puis, j'ai dit, de toutes les façons, moi, je ne veux pas dormir. Allez, agenouillez-vous. Je dis, pas question. Je ne veux pas m'agenouiller. Je m'agenouille devant le Seigneur. Et puis, et vous, vous êtes quand même mes frères, bien que vous soyez criminels. On s'agenouille devant son frère. Et puis il me regarde et dit, c'est la folle. Allez, tu entres dans le véhicule et tu me laisses. Et vous savez, parce que après avoir assisté à de telles atrocités, j'ai vu que même dans les yeux de ces criminels, si vous leur offrez un morceau de votre cœur, ils se remettent en question. Je vois toujours des gestes. Quand on essaie de pardonner, le bourreau se convertit et vous êtes sauvés aussi. Je vais, avant de céder la parole à Justine, qui a su, elle, pardonner vraiment et veiller à celui qui avait assassiné ses parents. Combien ils sont devenus amis. Et quand je me promène, quand je vais chez les Justines, que je vois que les enfants de ce criminel viennent saluer, passent la soirée avec eux, je me dis, ça vaut la peine de vous raconter cette histoire de la folie. Mais avant tout, je vais vous raconter une histoire aussi d'une jeune. Elle avait 14 ans et puis ceux qui avaient assassiné ses parents l'ont violée. Après 3 mois, arrivée à la maison Shalom, cette jeune, elle commençait à vomir. Puis je me suis dit, je vais l'amener à l'hôpital. Mais nous n'avons pas d'hôpital là où j'habite. C'est dans la brousse. J'ai dû faire 200 kilomètres. Arrivée chez le médecin, chez le gynécologue nous avertit, dit, voilà, elle est enceinte. Et la petite glorieuse, sur la table de consultation, puisque le médecin, il a dit, vite, il faut avorter, parce qu'elle est trop jeune, et puis elle ne pourra pas supporter la grossesse, et puis cet enfant, sa naissance, ça sera fatal, ne pourra pas l'aimer. Et la petite de regarder tout gentiment le médecin dit, mais c'est pas parce qu'ils ont été criminels que moi je dois être criminelle. Alors le médecin de me regarder, c'est cet enseignement là des catholiques et vous tuez et vous voyez, c'est à vos risques et périls madame. J'ai dit, mais elle a 14 ans, c'est pas moi qui suis enceinte monsieur, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Moi, je ne fais que l'accompagner. Et puis, il me dit, alors, regardons les dates. C'est là, donc, 3 mois maintenant. Elle devra accoucher, donc, le 15 septembre. Et j'ai dit, oh, Notre-Dame des douleurs, elle va me délivrer. Et puis, donc, vous l'amènerez le 1er septembre, parce qu'on devra lui faire une césarienne. Alors, moi, je suis là, tout bonnement, on prépare, on se dit, on va l'amener. Et voilà le 27 août, elle accouche toute seule et tout le monde court. Et Sainte Monica nous a libérés, nous a sauvés et elle met au monde une petite Monica. On l'a appelée Monica. Quand on lui a demandé comment elle voulait appeler sa petite, elle a appelé Ina Mahoro, l'enfant de la paix. Elle a 10 ans aujourd'hui et c'est un défi, notre défi. Et s'il y a mes frères et sœurs burundais, rwandais qui sont ici, et même vous, les occidentaux, qui dites, oh, vous savez, ces guerres entre Hutu et Tutsi, ils n'arriveront jamais à se réconcilier. Nous sommes là, à 3, à dire, mais si. Mais si c'est possible, mais si c'est possible, parce que l'amour est inventif. Je suis Tutsi, je suis née sur la colline Tutsi, mais je ne veux pas toujours parler, oh, ils ont tué ma famille. Mais c'est vrai, il faut faire le deuil. Le pardon, ça se demande et ça s'offre. Mais il faut toujours être prêt à l'offrir. Je sais qu'il faut faire le deuil. Nous avons fait le deuil. Nous avons dit, nous n'avons pas caché. Nous avons dit ce qui nous fait mal. Alexis a perdu les 2 parents. Et il est Hutu. Il est Tutsi plutôt. Bon. Nous sommes Hutu 3, de toutes les façons. Vous voyez, je ne sais même pas de quelle ethnie. Parce que nous avons inventé avec les blagues à la maison Shalom en disant, après tout, c'est quelle ethnie à la maison Shalom?
Les enfants, dans des blagues, ils disent, nous sommes Hutu, toi, Congo. Hein? Et puis, il y avait un enfant aussi qui est né, je dirais, d'un père français, et dit, et moi, vous m'oubliez, je suis Muzungu. Muzungu veut dire européen. Alors, il faut ajouter, alors on dit, nous sommes Hutu, toi, Congo, Zungu. Alors, ça résout tous ces problèmes entre les ethnies. Je suis pleine de confiance. Parce que, par après, vous savez, la guerre a continué. Même les mamans combattantes, les mamans rebelles, nous sommes allés leur rendre visite alors qu'elles avaient les armes. Nous sommes partis. Ils étaient là au Burundi. Nous avons pris le micro. Nous avons parlé. Ils nous ont amené leurs propres bébés pour que nous puissions les éduquer. Et aujourd'hui, on les a démobilisés. La seule maison où ils se sentent à l'aise, c'est à la maison Shalom. Parce que le pardon, parce que quand vous regardez votre frère comme votre frère, quand bien même il est criminel, vous le libérez. Et ce n'est que ce message. Si les chrétiens pouvaient savoir que le plus beau message qu'ils ont est la plus belle religion, c'est la seule religion qui met en avant le pardon. Et c'est ça qui nous libère. Voilà la vraie évangile. Je vous laisse, Justine, vous raconter son histoire.
C'est cette folle même que vous voyez. Moi aussi, elle me fatigue. Parce qu'elle dit que je suis son témoignage, mais c'est elle qui est mon témoignage. À Makea, en 1993, j'étais toute petite. Je ne savais où aller. C'était le désespoir total. C'était dans les ténèbres, comme elle vient juste de le dire. Elle a pu allumer la bougie. Donc, si on allume une bougie, donc il y a la lumière. Et si on ne met pas une couverture sur la lumière est claire et on peut voir. Aujourd'hui, je peux voir, je regarde très bien, je vois vous tous, je vois, je suis en Europe, le continent ou bien le lieu où je n'ai jamais rêvé d'être. Maggie m'a accueilli quand je venais de perdre mes parents. J'avais deux petits frères et trois petites sœurs qui sont encore en vie. Elle vous a tout dit, donc l'histoire de tuer mes parents, ça j'en passe. Donc je suis la victime de la haine fratricide. Moi je ne dis pas que c'est la haine interethnique parce que je ne savais même pas mon ethnie, parce que mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Je voyais les gens, les voisins, les amis de chez nous avec des machettes, des fusils. Ceux qui n'étaient pas même des militaires, à ce jour-là, ils se sont habillés comme des militaires. Puis, j'ai vécu ce que le Burundi a connu à cette époque-là. Mais avec l'accueil de Maggie, je croyais que c'était moi vraiment la vraie victime de cette guerre qui a pu souffrir. Donc je crois que qu'il n'y a personne qui a souffert comme moi. Oui, il y a mon petit frère qui avait 9 machettes et le petit qui avait 9 mois avec une machette dans la tête. Mais en arrivant à la maison Shalom, on a continué d'amener les enfants. Je me sentais un peu traumatisée, mais en regardant les nouveaux venants, j'ai vu qu'il y a ceux qu'on a levé les yeux et qui sont seuls. Ou bien ceux qu'on a coupé les doigts, ou bien ceux qu'on a levé une partie de jambes. Et moi, je me suis dit, mais je suis folle. Je peux dire que j'ai souffert plus que les autres, alors que personne ne m'a touché physiquement. J'ai commencé à réaliser ça. Je ne savais même pas mon ethnie. Un jour, j'ai approché Maggie, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est les Tutsis et les Hutus? Il m'a dit, Justine, toi, tu ne connais pas ça. Moi, je n'en sais rien du tout. Je sais vraiment qui a le nom Tutsi qui a tué mes parents. Et je déteste son nom. Je ne savais pas qu'elle est Tutsi. Et puis, il m'a expliqué, mais il m'a dit que ces deux ethnies, ce sont les ethnies des meurtres. Elle appartient à l'ethnie de Dieu, les enfants de Dieu. Elle m'a montré la croix où je voyais le Christ crucifié. Donc, elle a dit que ton ethnie, c'est l'ethnie de Jésus. C'est lui qui a pu donner sa vie, qui a pu nous montrer son amour jusqu'à nous donner ce qu'il avait de plus cher. Et moi, tout ce qu'elle me disait depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne disais rien parce qu'elle me dépasse. Vraiment, elle est folle. Elle est folle d'amour. Elle est folle d'affection. Elle est tout pour moi. C'est ma maman. C'est ma tante. C'est mon oncle. C'est ma grand-mère. C'est tout pour moi. Oui, après, elle nous a accueillis dans un centre et dans un orphelinat, mais elle n'a jamais voulu appeler cette maison orphelinat. Elle a dit que c'était dans une famille. Elle nous disait chaque fois qu'un jour, nous retrouverons notre identité, nous retrouverons notre chez-nous. Je dis comment? Il y a des lieux inaccessibles jusqu'à ce jour-là parce qu'il y avait de la guerre. Et moi, elle m'a proposé qu'elle va construire des maisons dans des villages. Elle m'a dit, mais tu vois, Justine, toi, tu es au milieu, la propriété de tes parents est au milieu des gens qui ont tué tes parents. Je vais alors t'éloigner de ces gens, comme ça tu seras tranquille, libre, tu ne sentiras pas donc mal à l'aise. Et moi aussi, j'étais convaincue que c'est vrai parce que même si c'est en moi, je sentais que malgré tout ça, il faut que je pardonne ces gens. Quand, après avoir m'expliqué ce que c'est l'ethnie, moi, j'ai commencé à moi-même à réaliser ce que les gens font. Je voyais que c'est stupide. J'ai dit, alors, je vais pardonner tout. Si Maggie, elle est Tutsi, et qu'elle a pu m'accueillir, et qu'elle a pu me couvrir de toute son affection. Parce que ce que je venais de perdre, ce n'était pas les choses matérielles, c'était juste l'affection. Elle a essayé de me rétablir, de me couvrir. Vraiment, je me suis sentie dans les mains. J'ai pu retrouver l'équilibre. Et pendant la nuit, j'ai dormi, j'ai dit, mais pourquoi elle va me construire une maison loin de chez moi? Non, pas que ce n'est pas dans la ville. Mais il faut que j'approche ces gens. Il faut que je leur dise ce que je pense. Si ils ont honte de faire le premier pas pour me demander pardon, moi, je vais faire mon premier pas pour demander pardon à eux en leur disant que j'en avais mal de ce qu'ils m'ont fait. J'avais envie de me venger contre eux pendant des années, 2 ou 3 ans. Je vais demander le pardon de cet esprit de vengeance. Comme ça, eux, si je demande pardon de mes idées, eux, ils vont demander le pardon de leurs péchés. Si c'est la miséricorde, on a dit que c'est la corde qu'on a lancée dans la misère. Je me suis dirigée vers Maggie, j'ai dit, mais j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'est bien de construire notre maison dans notre propriété. Parce que la vraie réconciliation, ce n'est pas de s'éloigner de celui à qui vous êtes en conflit, c'est plutôt de le montrer que c'est possible d'être ensemble, de dialoguer. Comme ça, si tu peux faire un pas de dialoguer avec lui, tu le délivres. Et quand tu le délivres, tu te rends libre. Et quand tu es libre, tu rayonnes de joie. J'étais la petite Justine. Aujourd'hui, j'ai pu pardonner mon voisin. Face à face, je l'ai appelé. C'était un homme riche. Tout le monde le respecte, mais je l'ai appelé. Monsieur, je vais te parler. Ce jour-là, il a fui. Il a quitté sa maison pendant 3 jours. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle avait cette fille? Elle a été élevée dans une maison d'une folle. que tout le monde respecte ou on perd d'elle. Elle a fui, mais 3 jours après, elle est revenue. Je l'ai rencontrée dans la mer. On peut se parler même en cours de route, pas de problème. Elle a dit, non, on va chez toi. Elle est venue, elle est entrée dans ma maison, ma nouvelle maison, parce que la première, c'est lui-même qui l'a détruite, avec ses neveux, avec sa compagne. Et j'ai dit, monsieur, j'ai vu que vous êtes converti dans la région protestante. Je veux que vous commenciez à prier pour notre dialogue. Il a prié et moi j'ai commencé. J'ai dit, monsieur, tu as vu tout ce qui s'est passé au pays. Il y en a qui sont responsables et ceux qui en étaient victimes. Moi, je suis la victime, je pense. Ou bien, dans d'autres pas, je suis la responsable. Mais moi, toi, tu sais que je t'ai vu. Tu étais le responsable parce que tu as tué mes parents. Tu as détruit notre maison. Et aujourd'hui, notre maison est là, on l'a reconstruite et je suis là. Il a commencé à pleurer, il m'a regardé. Moi, j'ai dit, je dois garder un sang-froid. Si je pleure, il va me voir que je suis faible. J'ai gardé sang-froid, je l'ai laissé. Il a pleuré. Après, il a commencé. Il s'est agenouillé devant moi. Il m'a dit, Justine, depuis ma naissance, ce jour est le jour spécial. C'est le jour que le bon Dieu vient de me montrer que vraiment il est puissant. Tu viens de me délivrer. Il a demandé pardon. Il a commencé à me raconter donc tous les gens qu'il a tués, toutes les maisons qu'il a détruites. Bon, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Il faut, si tu t'es converti, c'est-à-dire que tu as déjà dit ça à Dieu, donc Dieu t'a déjà pardonné. Moi aussi, je vais te le dire pour te mettre à l'aise. Il faut que depuis cette heure-ci, cette minute, à cette date, que tu sois mon papa et que ta femme soit ma maman, tes enfants soient mes petits frères et sœurs. Il a accepté. Depuis ce jour, vraiment, c'était une famille idéale. Quand il tombe malade, avant d'appeler sa femme, appelle-moi ma fille Justine. Il m'appelle. Le pardon, ce n'est pas une chose qui se fait d'un coup. C'est un processus. Tu réfléchis d'abord. Tu dis pourquoi je demande pardon. Qu'est-ce que c'est pardon? Pardon, c'est s'ouvrir aux autres. Pardon, c'est libérer. Quand ces criminels, eux aussi, ils ne sont pas libres. Ils sont vraiment malades. Il faut les prendre soin. Il faut les montrer que ils ne sont pas abandonnés. Parce que devant Jésus, personne n'est plus coupable que les autres. Jésus, je dis qu'il exagère, comme l'a dit le Père. Il exagère. Voir Justine aujourd'hui, à côté de Maggie, j'étais la plus petite. Maggie n'a été qu'un instrument de l'amour de Jésus. Elle a accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Elle-même, elle dit, mes enfants, je n'œuvre pas pour vous, j'œuvre pour mon Seigneur, j'œuvre pour Jésus. C'est lui qui vous a donné tout, c'est lui qui vous a fait comme ça. Justine, ne te regarde pas si puissante parce que tu grossis chaque jour, à chaque minute. C'est pas parce que tu es puissant, c'est grâce à l'amour de Dieu. Cet amour inventif. Vraiment, je suis le fruit délicieux de l'amour de Dieu. Merci.
Voilà. Et je vous demande, avant de clôturer, de croire réellement et d'oser rêver un monde où le pardon a de la place. Et comme ça, nous deviendrons tous des frères et des sœurs comme Dieu l'a voulu. Je vous remercie.
Merci, merci Maggie, merci au Seigneur qui fait des merveilles. Et là, on les touche du doigt. C'est le plus beau témoignage que nous puissions entendre dans ce monde. Merci de tout cœur.